presse du premier. Du premier mars.
Le mois de mars.
Ça va très vite. Ça va très vite. Colin, je suis en train de réaliser qu'on est en train de passer au travers de cet hiver-là. Malgré toute la neige qui nous est tombée dessus hier. Mais les températures assez douces me font croire qu'on n'aura peut-être pas besoin de déplacer nos chars pour le déneigement. C'est pas un hiver particulièrement froid. Hein?
Non, puis j'ai pensé à ça. Je me disais, tu sais, moi, là, depuis que j'habite temps plein à Montréal, ben, tu sais, je trouve les hivers moins pires. Ben, évidemment, j'ai pas de voiture, un. Puis deux, ben, tu sais, je suis assez sédentaire. Puis je me disais, j'ai hâte de voir Frank après un hiver s'il va dire la même affaire. Tu sais, s'il va dire, ben, c'est pas si pire que ça, l'hiver, puis tout. Mais tu sais, il y en a eu de la neige, il a fait frette. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas le même. Tu sais, tandis que, tu sais, partout où tu vas quand tu habites à Rouen, il faut que tu fasses de la distance. Tu sais, c'est du trouble. Tu sais, il n'y a pas de transport en commun. Tu sais, il faut que tu sortes ton char, tu le déneiges, tu sais, même pour aller juste te pogner. Tandis qu'ici, on va se passer à pied. Tu sais, c'est moins. Moi, je trouve tout le temps que c'est moins pire.
Ben, tu sais, ne serait-ce que pour pas vivre l'enfer de trouver du parking à son char ou de revenir à la maison puis voir qu'il n'y a plus de place dans sa rue, je prends jamais mon char à Montréal. Ben, je m'en sers juste pour sortir de la ville une fois par semaine là, à 2 heures. à 2 heures de route, mais. Non, le char, c'est quelque chose qui reste parké depuis que je vis à Montréal. Puis l'hiver. C'est très différent de d'Abitibi. Tu sais, ça fait long. J'étais longtemps en Abitibi, une dizaine d'années. Puis, vous m'avez déjà entendu décrire l'hiver abitibien. Il dure un an. il fait frette. Mais là, ici, j'ai fait du longboard jusqu'en décembre. J'étais allé à un rendez-vous au CLSC en longboard en plein mois de décembre. Là. Fait que je me plaindrai pas de l'hiver qu'on vit à Montréal.
Non, mais tu sais, dans le fond, ce que j'essayais d'illustrer, c'est que, tu sais, nous autres, on dit, c'est pas si pire, mais tu sais, l'avons-nous vraiment vécu? C'est ça mon point, là. T'sais, moi, je me sens pas, tu sais, l'année passée, c'était la même affaire. Je disais, mon Dieu, il me semble que j'ai pas vu l'hiver passer. Mais non, tu l'as pas vu passer parce que tu es tout le temps le nez devant un hostie d'ordinateur.
Ouais, ben, toi, tu sors pas beaucoup, là. C'est sûr la nourriture vient à toi, là. Tu vas pas la chercher, là. Tu fais beaucoup livrer.
Plus qu'avant, par exemple. J'ai fait... L'an dernier puis l'année d'avant, c'était épouvantable, mais cette année, je me fais plus à manger. Je suis moins pire. C'est pas ça. Il y a encore place à de l'amélioration, mais je suis pas mal moins pire, je te dis.
Oui, j'essaie de sortir à peu près tous les jours. Ne serait-ce que pour des commissions, ben, prendre une petite marche avec les écouteurs Bluetooth. Puis c'est le fun de marcher à Montréal. Il y a plein de choses à voir, tu sais. Mettons qu'on compare, mettons, encore avec la BTB. À un moment donné, tu l'as vu, le village, là, tu sais.
C'est beau de te voir, François, t'as encore cette belle naïveté.
Mais, écoute, c'est non, moi, j'ai toujours aimé ça, me promener en ville. Quand je vivais à Québec, j'aimais beaucoup ça, aller en Haute-Ville puis en Basse-Ville, marcher, puis avoir plein de faces à rencontrer, plein de monde à voir, plein de monde bizarre à voir aussi, tu sais. S'amuser à créer des malaises en disant bonjour à des gens ou en leur souriant. Pourquoi il me sourit, lui? Tu sais, à Montréal, c'est spécial, hein? Le protocole, là, quand tu rencontres quelqu'un, c'est de regarder à côté de sa face ou au travers de sa face. Mais faut que tu fasses comme s'il n'existe pas. Là. Si tu tiens compte des gens que tu rencontres, tu te fais regarder bizarre. Là. Tu crées des réactions. Il y a du monde qui dit, non, un contact visuel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse donc dans ce temps-là? Bonjour! Il m'a parlé. Pourquoi il me parle? Tiens, j'en venais pas d'argent, lâche-moi, puis je n'ai pas de cigarette. Puis...
À Rouen, c'est moins le cas, là, je te l'assure. Là. J'ai vécu à Rouen, puis j'ai vécu au Témiscamingue. Mais ça arrive régulièrement, mais c'est beaucoup moins le cas. C'est moins implanté qu'au Témiscamingue. Au Témiscamingue, là, t'es assis sur le balcon avec ta blonde, il y a un couple qui passe devant chez vous. Puis, tu sais, le balcon, il n'est pas à 3 pieds de la rue, là. Tu sais, c'est un bon 15 pieds, 20 pieds. T'es assis sur le balcon, il y a un couple qui passe, qui prend de marche, puis ils te disent bonsoir, là.
Ah, ben oui, ben
t'sais,
oui.
T'sais, mais quand t'amènes des chums qui viennent pas du Témiscamingue, tu sais, vous toutes les fois, j'invite quelqu'un à venir avec moi ou Bourbon est venu avec moi au mois d'août cet été, tout le kit. Ben, tu sais, là, il y en a que ça le dérange pas. C'est pas tout le monde qui fait que, ah, le monde dit bonjour, tu sais. Non, là, c'est sûr. Mais moi, j'aime tellement ça, là, je trouve tellement ça sympathique, accueillant, chaleureux, puis tout. Puis l'autre affaire que je veux dire sur Montréal, puis se promener, moi, c'est que ce soit au Témiscamingue, à Montréal ou n'importe où, je ne suis pas un être humain designé pour l'hiver. Fait que l'été, je marche beaucoup, je sors beaucoup, je vais me promener dans le vieux avec mes écouteurs, tu sais, je me promène, je fais beaucoup de commissions, là, tu sais, je fais exprès pour aller plus loin, pis tout. L'hiver, fuck you.
Ouais, c'est ouais. Quand on rentre dans ta chambre, on s'aperçoit que t'es pas designé pour l'hiver. T'sais, il fait 38, ouais. T'as une tuque puis un gros chandail. T'sais, c'est,
voilà.
Voit que t'es pas une bébite du Nord. Mais quand même, c'est quand même le fun.
Non, attends un peu. Tu dis que t'es pas une bébite du Nord. Non, je pense que c'est parce que j'ai resté là longtemps que j'ai
t'es curé, ouais.
Ouais, c'est ça. Parce que, écoute, là, j'en ai fait des moins 50, puis je jouais dehors quand j'étais petit, puis ah ouais, par là. Mais là, le garde à cette heure, je suis un quinquagénaire à cette heure. Tu le dois
rester à la maison. Ouais. C'est le contraire. <t'sais. rire> moi j'ai pas grandi en Abitibi. Je suis né à Montréal. La place que je suis vraiment né, c'est ici. J'ai beaucoup vécu à Québec, en Outaouais, puis j'ai pas vécu les hivers extrêmement froids quand j'étais petit. Je les ai vécu dans la trentaine. La trentaine, là, c'est là que j'ai découvert c'est comme c'est ça quoi, qu'on l'hiver? Sent à moins 52, je vais rentrer en dedans. Tu sais, quand tu sors dehors, puis à première respiration, sauf te coupe, là, parce que c'est trop froid, puis les parois du nez te collent, puis des yeux cristallisent. Je vais rentrer un peu. Mais à part ça, non, mais pour le phénomène aussi de saluer les gens, ben pas plus loin qu'à Victo, nous autres, on fait ça. On salue le voisinage qui marche dans la rue. Puis aux îles de la Madeleine, que c'est encore plus éloigné, ça doit être semblable au Témiscamingue. Si tu rentres quelque part dans un dépanneur, il y a du monde, puis tu salues pas personne, c'est toi le bizarre.
Ah ben oui, c'est sûr.
Mais ça devrait être ça, les relations humaines devraient être l'attitude par défaut là, de saluer les gens. Mais à Montréal, tu peux pas faire ça. C'est parce que le monde pense que tu veux leur argent.
Le dépanneur à Ville-Marie... Et sur le bord de l'eau, tu sais, qui est en bas de la côte.
Ouais.
Ça s'appelle le Kajibi, tu sais. C'est le dépanneur. Moi, ça me dépasse. Il se loue encore des DVD, mais bon. Fait que c'est le dépanneur bureau de poste, arrêt de boss. C'est là que tu envoies tes colis. Tu vas te pogner un café, tu vas mener ton DVD, tu veux de la bière, du prospecteur. Tu sais, c'est
tout ce poste-là.
Fait que si tu rentres là, puis tu sais, ça prend. Ça prend 0.2 secondes à toute personne qui est dans le dépanneur savoir si tu viens de là ou pas. Mais c'est sympathique. Moi, j'aime ça. Je m'ennuie des fois de ça.
L'ambiance de village, hein? Ouais.
C'est carrément ça. C'est carrément ça. Puis, Boston Pat, il est en forme. Simonac, je t'avais d'appeler Bavaria. Je suis moins tough qu'à ma Liga à moins 20. Écoute, je vais t'envoyer un poster, Boston Pat, là, tu pourras. Je vais t'envoyer un poster de moins qu'une tuque. Mais non, je fais des farces. Mais non, c'est ça, je m'ennuie des fois de ce volet-là. Mais non, j'appellerai jamais. voyons comment ça s'appelle. Hampton Analysis pour prendre en charge ma défection. Ça arrivera pas.
Je sais pas c'est quoi qui fait que sa compagnie Hampton Analysis. J'ai aucune idée de ce qu'ils font. Tout ce que je sais, c'est que c'est la compagnie de cette grosse crotte de fromage.
Il y a une dégueulasse
qui crie tout le temps.
Il faudrait. Hey, ça, je vais faire ça. Fait que là c'est, je pense pas qu'ils nous écoutent. Je vais aller voir ça. Je vais m'intéresser à ça. Son application. Il y a parti un réseau social où tu as le droit de tout dire et tout. Fait que ça doit être.
Ouais, un genre de plugin là, que tu installes puis que ça te fait un petit réseau social amateur. Là.
Non, c'est une application sur l'App Store.
Ah ouais.
Oh oui, on n'embarquera pas là-dedans. Je vais faire mon investigation.
Okay.
Je vais faire une petite enquête là-dessus. Mais écoute, si tu me permets, je commencerai par faire un beau segue avec des sujets qu'on a abordés hier. Oui. Notre chum, Steve Sauvé, de La Voix régionale, qui publie en fait un article là, qui traite un peu des résultats qui ont été obtenus par l'Université Laval sur l'utilisation. En fait, eux autres, ce qu'ils ont comparé, c'est l'utilisation des jeunes de 6 à 17 ans des appareils électroniques ou de leur présence en ligne, whatever, avant la pandémie puis après. Et les résultats sont assez étonnants. En 2022, Le visionnement de vidéos sur des plateformes comme YouTube ou TikTok demeure l'activité la plus populaire chez les jeunes âgés de 6 à 17 ans. C'est 67 % des jeunes qui sont là-dessus. Vient ensuite la pratique des jeux en ligne, 64 %. Le visionnement de séries ou de films sur Internet, 47 %. Et la visite des sites web de divertissement, 47 %. Mais ce qui est intéressant, ou en tout cas peut-être un petit peu alarmant, c'est que selon une enquête de Net Tendance rendue publique par l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval, l'assouplissement des mesures sanitaires puis le retour à une vie plus normale n'a pas amené les jeunes Québécois à diminuer le temps qu'ils passent devant leurs écrans. L'enquête rapporte que 42 % des Québécois âgés de 6 à 17 ans ont passé en moyenne plus de 10 heures par semaine à naviguer sur Internet en 2022. En 2020, le nombre était de 40 %, donc ça a baissé ça a monté de 2 %. Mais avant le confinement, la proportion de jeunes Québécois a passé en moyenne plus de 10 heures par semaine sur Internet, c'était de 25 %. C'est huge, là. C'est 17 de plus. Ouais. Fait que 25 % des 6 à 17 ans passaient 10 heures devant un écran par semaine. Il y a eu la pandémie, ça a fait monter à 40. La pandémie est finie, 42. Fait que regarde, ça n'a pas diminué, là. Fait que ça puis là, écoute, c'est sûr que c'est pas étranger au succès de plateformes comme TikTok et tout ça. TikTok, ça appartient en quoi? 2018-ish?
Juste à temps pour la pandémie,
ouais. Ben, c'est ça. L'autre affaire intéressante des résultats de cette étude-là, c'est que 75 % des jeunes de 6 à 17 ans, ils utilisent 3 appareils électroniques. Fait que cellulaire, laptop, tablette. Écoute, ils sont tout le temps pluggés, là. En gros, là, c'est ça que ça dit. Puis l'autre affaire qui est en grande croissance. Non, c'est pas bon. L'autre affaire qui est en grande croissance, puis c'est parce que je pense que toi, t'as ça, c'est l'assistant vocal à domicile. Ça a doublé d'utilisation. Ça a passé de 15 à 36 % d'utilisation.
Genre, Google Home, puis Siri, ou c'est pas quoi.
Ouais. Okay. Ça, c'est capoté. Puis l'autre affaire. Ça,
mais j'oublie que je l'ai. J'utilise jamais.
Tu devrais demander de te rappeler qu'il existe.
Il est dans la cuisine, puis tu sais, je me dis, ça peut être pratique, des fois, pour les devoirs des enfants. Mais c'est pas ChatGPT, là. Mais quand même, on oublie qu'il. On s'en rappelle quand on trouve pas notre téléphone, puis qu'on veut la météo, là.
Bon, ouais, c'est ça. Mais écoute bien celle-là. Celle-là, moi, m'a fait vraiment comme dropper à mâchoire. Là. Près des deux tiers des parents de jeunes âgés de 6 à 17 ans, 63 % considèrent comme très ou assez probable que leurs enfants sont victimes d'intimidation sur Internet. 63 % des parents disent que leurs kids de 6 à 17 se font intimider sur Internet. Tu trouves pas qu'il y a une dichotomie là, dans tout ce que je viens de te dire là? Ils en consomment plus, puis les deux tiers des parents pensent qu'ils se font intimider sur Internet. Et ça ne tente pas de leur enlever un peu.
C'est pas tout le monde qui a la même conception du contrôle. Hein. C'est tentant de dire aux enfants « Oh, ils jouent à tablette pour avoir la petite paix. » Sauf que c'est pas nécessairement dans leur bien. T'sais, il faut encadrer les heures d'écran des enfants. Parce que si tu les laisses pleine liberté, ils lâchent juste jamais. Puis ça a plein d'effets négatifs. Là, je suis pas en train de dire que ça va rendre violent puis il va aller tuer du monde
plus tard.
C'est de la bullshit, ça. Mais ça le fait d'être toujours stimulé, tu sais, parce que quand t'es sur TikTok, surtout TikTok, tu sais, c'est des vidéos un après l'autre, t'es stimulé. Il y en a un que t'aimes pas, tu switches à un autre, Oh, lui, tu l'aimes. Tu sais, puis là, tu t'envoies ça, tes chums, ils t'envoient ça, puis tu sais, c'est extrêmement stimulant, puis ça te donne une espèce. Ça, et aussi le fait d'avoir un profil qui est populaire, d'avoir des likes sur ses photos, sur ses publications, sur ses vidéos. Ça donne des doses, tu sais, importantes de dopamine, là, tu sais, c'est comme un système de récompense, là. T'es comme récompensé pour avoir réussi à être populaire, avoir réussi à être drôle, à être cute. Fait que tu finis par avoir besoin de ça, là, tu sais, puis si t'as pas eu autant de likes sur cette photo-là, ah, qu'est-ce qui se passe? Le monde m'aime plus, le monde m'oublie, puis tu sais, ça devient trop rapidement le centre de la vie, puis aussi, ça fait que tu bouges plus non plus, puis ça donne des difficultés de sommeil, puis les difficultés de sommeil des enfants en donnent aux parents. Hein? Je pense que tout le monde qui en a le savent. Si ton enfant dort pas, tu dors pas. Puis s'il se réveille 10 fois, tu te réveilles 10 fois. C'est comme ça. Puis il faut faire attention. Puis aussi, ça a été démontré que si tu laisses faire de l'écran à tes enfants juste avant le coucher, ça stimule le cerveau, puis ça fait qu'ils vont avoir encore plus de difficultés à dormir, ils vont moins dormir, plus de difficultés les matins, ça peut être tough avant l'école, tout ça, plus de fatigue à l'école. Tu sais, il y a un paquet d'affaires qui découlent de la surutilisation des écrans. Faut vraiment encadrer ça, au moins un minimum. Tu peux pas y dire, tiens, ça c'est ton sel, fais ce que tu veux avec. Sans compter de vérifier ou d'avoir un certain contrôle de qu'est-ce qu'ils vont consulter aussi. Là, tu sais,
des fois,
ils peuvent exposer des affaires. Hein?
En 2022, c'est 63% des parents qui disent qu'il y a de l'intimidation. En 2019, c'était 44. C'est 19% d'augmentation, ça. L'autre affaire qui est étonnante, c'est que ce sont les parents de garçons qui sont plus nombreux à penser qu'ils sont victimes d'intimidation que des filles. 69% pour les gars et 52% pour les filles. Je rappelle, c'est quoi la statistique? C'est 69% des parents de garçons âgés de 6 à 17 ans pensent qu'ils se font intimider sur Internet, alors que la même statistique pour les filles, c'est 52%.
J'aurais imaginé le contraire, étonnant. Parce que les filles, souvent, sont plus soumises à se faire critiquer, notamment sur l'apparence. Hein, puis, tu sais, les filles mettent beaucoup de photos d'elles-mêmes. Les garçons aussi, mais je pense que les filles, encore plus, avec telle robe, en train de faire telle danse. Et puis, on body shame rapidement les filles. Tandis que les gars, d'habitude, on peut se permettre de faire dur un petit peu en toute impunité, alors qu'une fille, si elle a une couette de déplacer, une coupe de livre en trop, c'est des messages haineux qui s'enfilent. Fait que j'aurais pensé que c'était les filles qui auraient été plus touchées.
Ben moi, je me demande si c'est pas juste parce que les filles sont moins freaks d'être collées après le téléphone que les gars.
Ah, je pense pas.
C'est le gaming pis tout, là, c'est pas mal plus masculin dans ma tête. Là.
Ben, à notre époque, oui, mais aujourd'hui, il y a beaucoup. Je pense que c'est encore peut-être plus les gars qui game que les filles, mais il y en a de plus en plus. Mais tu sais, le gaming, c'est pas là que tu te fais intimider, ben, là, tu sais, à part te faire debaguer, là. Mais je pense que l'intimidation se passe beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup dans le jugement. Puis sur les jugements superficiels, là, les apparences, la façon de parler, la façon de bouger.
C'est parce que là, c'est des parents de filles qui pensent que leurs filles se font moins intimider, tu sais, mais là, il y a un paquet de variables qu'on peut pas. Non, mais il y a un paquet de variables qu'on peut pas identifier, tu sais. Est-ce que pour faire une analyse complète, il faut que tu saches si les filles interagissent plus avec des filles qu'avec des gars, tu sais, tout ça. Puis moi, tu sais, je comprends que c'est complexe, là, parce que, tu sais, il y a de l'intimidation entre filles aussi, là, tu sais. Puis,
regarde.
Énormément. Moi, à toutes les fois que je parle avec du monde qui ont des ados, je capote. Tu sais, toutes les fois qu'ils me racontent les tribulations, là, tu sais, le Degrassi Junior High drama là, de leurs enfants qui vont au secondaire, moi, je capote. J'entends des affaires que j'étais. Qu'il y a même pas un iota d'affaires aussi débiles qui sont arrivées quand moi j'allais au secondaire. Tu sais, d'intimidation, des affaires d'agression. Tu sais, c'est capoté, là.
Je se mettre en gang, forcer deux personnes à se battre, puis.
Des affaires de même,
on dirait que. C'est plus une espèce de phénomène de meute, là, tu sais. Des meutes qui s'en prennent. Tu sais, une meute de loup, comment ça chasse, là, ça va suivre le troupeau de, je sais pas, de chevreuils, mettons. Ils vont identifier l'élément le plus faible, celui qui a plus de difficultés à se sauver, celui qui a le moins de potentiel pour se défendre. Puis ils vont s'attaquer à cet animal-là parce que c'est plus sécuritaire pour eux autres, parce que la chasse dans le domaine des animaux, c'est dangereux pour le prédateur aussi. Fait qu'ils vont minimiser les chances de blessures et maximiser les chances de succès en s'attaquant à la proie la plus faible. C'est la même affaire dans une cour d'école. Les bullies s'attaquent pas aux autres bullies. Les bullies s'attaquent pas aux gars sportifs qui performe bien puis qui est en forme. Lui, il se fait pas chialer. Il s'attaque à la personne qui souvent qui est déjà la cible de la risée des autres, puis qui est plutôt passif, qui est replié sur lui-même, qui affiche pas beaucoup de confiance ni de force, c'est ces gens-là qui deviennent des, ce sont comme des victimes naturelles, les prédateurs de cours d'école, les bullies le sentent, le savent. Ils ont du plaisir, ils éprouvent du plaisir à faire souffrir ces gens-là. Est-ce que c'est un exutoire pour leur propre souffrance? Moi, je suis pas psychologue, puis je m'y connais pas assez. Mais ils ont réellement du plaisir. Je l'ai vécu, là, tu sais, ils ont du fun, là. Puis on le voit, il y a des vidéos de gens dans des cours d'école qui sont genre une vingtaine, une trentaine entourés deux jeunes intimidés. Ils les forcent à se battre, ils les forcent à faire toutes sortes d'affaires. On se met en gang maintenant pour... c'est ça a sûrement toujours existé, mais j'ai l'impression que c'est pire. On se met en gang pour intimider quelqu'un, que ce soit dans une cour d'école, physiquement ou virtuellement sur Internet. Là, t'sais, quand j'ai l'impression aussi que le même phénomène d'entraînement que tu vois dans la vraie vie. Là, j'ai déjà expliqué le principe là, de la classe d'école. Là, t'sais, y a comme des petites catégories, des castes. T'as le gars populaire parce qu'il est beau puis les filles trippent toutes dessus. Lui, il se tient avec la fille populaire qui est belle, que les gars trippent toutes dessus. D'habitude, ils ont un ami qui est sportif, un peu tough, qui fait le fier à bras dans leur petite organisation, leur petite tribu. Et parmi les autres, ceux qui sont plus insignifiants, ou pas insignifiants dans le sens qu'ils valent rien, mais dans le sens où ils représentent pas de rôle particulier dans la cour d'école, dans la classe de l'école, eux autres veulent être associés à ces winners-là et pas aux losers. Fait que ils regardent la tendance, puis s'ils s'aperçoivent que les jeunes les plus populaires s'attaquent à une personne, ils vont s'attaquer à cette personne-là aussi pour être acceptés par ces gens-là. Sur les réseaux sociaux, je pense que c'est la même chose aussi. Je pense qu'avant de réagir, le monde regarde les commentaires. Admettons, je sais pas, quelqu'un danse, fait une vidéo de danse sur TikTok, OK? Bon, ça l'espère mieux que moi. Puis, sinon, il a presque raison de se faire écœurer. Mais j'ai l'impression que on regarde les commentaires. Et puis, si la tendance, c'est... t'es trop grosse pour danser, t'as de l'air d'une grosse balloune, on va y aller de ce type de commentaires-là pour se faire pour faire partie de la gang qui harcèle, pour faire partie de la gang de loups plutôt que de la gang de chevreuils. T'sais, on veut s'associer aux forts, on veut leur plaire pour qu'ils nous acceptent dans leur caste. Puis on adapte notre comportement à celui de ces leaders-là. Puis quand ils se mettent à la gang après quelqu'un pour l'intimider, l'écœurer, le dénigrer, il y en a beaucoup qui vont choisir de calquer leur attitude sur la leur pour faire partie de la bonne gang, pour pas être dans les victimes. C'est de la psychologie à Saint-Saëns qui sort de ma tête, là, mais c'est comme ça que je le comprends.
Ben, tu sais, là, actuellement, tu sais, moi, mes expériences sur les réseaux sociaux, ça ressemble à ce que tu viens de dire. Puis, tu sais, la différence avec peut-être avant, c'est que là, on assiste à on assiste à l'inverse. C'est-à-dire que tu vas avoir un paquet de monde. Tu sais, ça finit en brawl for all. Là, parce que ce qui arrive, c'est que, je reprends ton exemple de la fille qui danse. Puis qu'elle a un surplus de poids. Ben là, tu vas avoir une gang de maillettes, tu sais, qui vont arriver puis qui vont dire « check-moi là, blingingingingingin ». Là, ce à quoi tu vas assister des fois, je veux pas généraliser, c'est que tu vas avoir une ou deux personnes qui sont contre ça, puis qui vont se présenter, qui vont soit, peu importe, là, qui sont suivis par d'autres mondes qui vont voir ce commentaire-là, ou des amis communs, ou peu importe. Des fois, tu vas avoir une gang, tu sais, qui vont se liguer, tu sais, pour y aller, puis là, ben ça vire en, tu sais, au final... Qu'est-ce que ça donne? Rien, là. T'sais, est-ce qu'on peut dire que ça fait que plus de monde va avoir vu la vidéo de la fille qui a un surplus de poids qui danse un peu weird? Probablement. Puis, tu sais, une semaine après, c'est la seule affaire que le monde va regarder. T'sais, c'est l'instantanéité aussi, faut pas que tu oublies, là. T'sais, une semaine plus tard, il va y avoir une fille en train de danser, tu vas regarder, il va avoir eu 700 réactions. Mais tu sais, tu n'iras pas les 700. Mais le jour même, oui, par exemple. Parce que là, tu vois ça défiler, bling, 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 ça rentre. Fait que, c'est une espèce de sous-société qui n'est pas du tout ce qui se passe en réalité. Tu sais, combien de fois j'ai dit ça? Combien de fois j'ai dit, Frank, du monde qui t'envoie chier sur Facebook, t'es là dans un appel téléphonique, t'es là, tes rencontres en personne, sont pas agressifs comme sur Facebook, là.
Non, c'est... Les réseaux sociaux, c'est la reine des gladiateurs modernes. Là, on regarde le monde s'entretuer, puis le monde se faire bouffer. Après ça, on décide si tu meurs ou tu vis.
Ah ouais.
Puis quand on décide qu'on n'aime pas la victime, puis qu'on peut ou qu'on veut se faire accepter, on fait partie de la bonne gang, ben on rentre dans le...
Non, c'est ça. Puis le danger de ça, le danger, c'est qu'au final, tu sais, il n'y a aucune ouverture. T'sais, le danger, c'est qu'au final, il n'y ait pas possibilité de discuter. T'sais, tu vas avoir la gang de blanc et la gang de noir ou peut-être mauvais choix de couleur. Là. Mais tu vas avoir la gang de A et la gang de B. Puis il n'y aura jamais d'échange. Toi, t'es niaiseux, toi, t'es niaiseuse. Elle est niaiseuse, toi, t'es niaiseux. T'sais, fait que ça ne fait pas avancer grand-chose. Garde, de toute façon, moi, c'est sûr que, garde, qu'on le veuille ou non, qu'on cherche des façons de faire ou pas, le temps d'écran ne diminuera pas. Fait que regarde, qu'est-ce que tu as comme option? La première, c'est de priver de, au moyen de mesures disciplinaires d'avoir de l'écran. Sinon, ben quoi, tu contrôles ce qu'ils regardent sur l'écran?
Moyen, c'est plus facile avec des enfants, c'est sûr. Là,
oui, des jeunes enfants, mais regarde, la problématique, là, ça c'est un tout autre sujet, mais la problématique, c'est que le kid de 12 ans, c'est plus que son père et sa mère, comment que ça marche la tablette. Fait quand même, ouais, tu essaies de mettre le père par main là-dessus, regarde, il va trouver le workaround pour y aller.
T'as beau mettre des codes ou aller voir l'historique de recherche, il est capable de contourner tout ça, là. Ça c'est certain, là. Mais quand ils sont jeunes, c'est mieux de faire un petit peu de monitoring. Regardez un peu où il va, à quoi il est exposé, c'est quoi. Les recherches qu'il fait, des fois, ça peut donner des informations intéressantes sur l'état où il est rendu dans sa puberté, mettons. Ça peut donner aussi une idée de comment il feel, qu'est-ce qu'il va regarder, s'il va voir des choses négatives, des choses positives, des affaires violentes, des affaires, tu sais, mais rendu ado, c'est ça le problème, c'est que c'est sa tablette, puis tu peux plus faire comme bon, maintenant tu as droit à ton 15 minutes de tablette. Non, il a 14 ans là.
Tu laisses sa tablette,
puis il va faire ce qu'il veut avec, puis il va découvrir ce qu'il a à découvrir là.
L'affaire qui arrive là, pense-y deux secondes là. Tu sais, quand tu parles de dispositifs électroniques comme des tablettes ou téléphones cellulaires, tu sais, quand les parents qui essayent d'instituer, tu sais, une notion de vie privée, tu sais, puis tu peux pas venir dans ma chambre, tu sais, à partir d'un certain âge, je te parle pas d'à 8 ans, là, tu sais, ou cogner avant, puis tout, c'est... Mais là, un téléphone, là, ou une tablette, c'est rendu la même affaire, là. Tu sais, combien tu vois de... Regarde, là, fais juste prendre l'exemple de certains adultes, OK? Genre, là, dans des dating shows ou des affaires de main, tu sais, ils vont dire, est-ce que tu donnerais le code de ton téléphone à ta blonde? Ah, ben oui, moi, j'ai rien à cacher, moi, tu sais, puis toutes ces affaires-là. Mais tu sais, la notion, moi, pour moi, mon téléphone, c'est quelque chose qui m'appartient. Le contenu qu'il y a dedans, c'est à moi. J'ai pas d'affaire à être obligé de montrer ça à quelqu'un pour faire montre de mon allégeance.
De ta transparence absolue.
Ma transparence ou mon honnêteté, puis tout. Regarde, si t'es pas capable de me truster, ils sont pas avec moi, là, mais je commencerai pas à te donner mon sel puis mon nip, là, tu sais. Fait que, mais, tu vois, ça, c'est plus à propos de quel âge que t'as. C'est plus à propos de construire une confiance entre deux personnes. Non, c'est à propos du dispositif. Un dispositif, là, un parent ne devrait pas pouvoir, pour certains jeunes, à 14 ans, « Hey, c'est mon téléphone. Comment ça, maman, t'es allé voir dans mon téléphone? Hey, comme toi, là, tu ressens-tu de mon toit, là? Regarde, je veux savoir, tu sais, jusqu'à nouvel ordre, tu sais, je suis responsable de toi, fait que ça me tente pas que, bon... Mais ça, c'est rendu des affaires qui sont attachées au dispositif lui-même. C'est même plus à propos d'une idée ou tu sais d'un concept ou de grandir en société. Non. Un téléphone, t'as pas le droit de fouiller dedans. Voyons là, toi.
Non, c'est cher journal. C'est que c'est un journal intime, un téléphone. Hein? Mais je sais pas à quel âge, à partir de quel âge que
c'est pour.
On faut donner, tu sais, qu'on peut laisser un téléphone. C'est parce qu'en même temps, si tu donnes pas un sel à ton enfant, puis il est le seul à pas en avoir un, il va être rejeté à cause de ça, c'est niaiseux de même.
Ah ouais, c'est cave dans le monde, t'as bien raison.
Tu sais, fait que, tu sais, je sais pas à quel âge ça part. Je pense que le mieux, tu sais, mon expérience de beau-papa de 1 an, là, tu sais, je ferais pas la leçon à personne.
T'es pas rendu pédagogue professionnel, là.
Non.
Conquête,
là. Non, mais j'ai une opinion pareille, mais je fais la réflexion suivante, je la fais avec vous autres. J'ai l'impression que jusqu'à un certain âge, c'est mieux qu'il y ait une genre de tablette familiale, puis que le ou une tablette dont le parent a le contrôle ou quelque chose de même pour te dire, tu as droit à 15 minutes, tu as droit à une demi-heure, peu importe, que ce soit contrôlé et qu'il y ait des accès, tu sais, surveillé un peu. Mais à un moment donné, c'est ça. L'ado devient, tu sais, c'est plus un enfant, puis les enfants ont pas de vie privée, hein. Ils savent tout, là. Tu sais, les parents sont au courant de tout. S'il fait pipi au lit, ben, tu le sais, là. C'est toi qui le ramasse, là. S'il est ado, il va se lever dans la nuit pour aller laver ses couvertes, là. Tu sais, je veux dire, il a une vie privée. Il prend conscience de l'intimité. Les enfants ont pas ce feeling-là de l'intimité. Tu sais, maman est dans la douche, puis lui, il va aller en profiter pour faire caca à côté, là. Ben, tu sais, à un moment donné, ça arrête, ça, là. À partir d'un certain moment, les enfants deviennent des ados. Ils ont besoin de leur vie privée. Puis la vie privée aujourd'hui, ben ça se passe sur un device, sur un téléphone, une tablette, un ordinateur. Fait que tu sais, ouais, hey. Mettons t'es sous mon toit, je peux aller lire tes affaires, mais non en même temps. Je pense qu'il faut laisser de l'intimité à ces jeunes-là parce que ils vont se sentir violés, épiés. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'avoir une porte qui barre à leur chambre ou tu sais une règle qui fait que tu sais qu'ils ont une certaine intimité.
Non, mais c'est parce que tu sais là encore là, tu sais le danger que moi je vois potentiellement se produire, c'est que tu sais là, c'est parce qu'à un moment donné, t'es jeune, t'as accès à tellement d'informations puis à tellement d'affaires. Il est là le problème. Le problème, c'est pas de mettre des bases claires sur une vie intime, c'est quoi, à partir de quel âge. Je pense que, tu sais, pas mal tous les parents sont capables de faire ça comme du monde. C'est pas ça. Le problème, c'est que t'as accès à tellement d'informations et rapidement que, tu sais, à un moment donné, ben, moi, je trouve que la réelle problématique, c'est d'exposer des jeunes en développement à des affaires qui devraient pas être exposées. C'est surtout ça, moi, mon problème. Ouais, c'est pas le problème de fouiller dans tes affaires puis tout. Moi, j'en ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est que, tu sais, que ce soit la désinformation, que ce soit des affaires, tu sais, je veux pas dire qu'il faut traiter les enfants, là, tu sais, happy, happy, joy, joy, puis il n'y a rien de mal sur la tête. Non, ils sont pas caves, ils regardent la TV, puis tout. Sauf que, tu sais, de pas faire exprès de les exposer à des affaires qui n'ont pas d'allure, tu sais, me semble que ça, tu sais, ça peut faire partie.
Mais notamment la sexualité, tu sais, dans le temps, on découvrait ça, il fallait trouver la cachette de cassettes porno françaises de 20 ans, pleine de poils, au père de ton ami. Puis là, ben, pendant qu'il était parti, essayait de regarder des bouts, t'essayais de déchiffrer les images, tout de même, de pas débrouiller de super écran. Puis c'était. Mais aujourd'hui, ben, Colin, ils vont se ramasser sur Internet, puis la première relation sexuelle qu'ils vont voir de leurs yeux, ça peut être un gangbang dégueulasse, dégradant, ouais. Violent. C'est épouvantable. Là.
Je veux pas te couper, mais quand je travaillais avec Anne-Marie Duprat, ma vie amoureuse de marde, à un moment donné, elle avait fait venir justement une sexologue dans sa pratique, ce qu'elle voyait de plus en plus. Dans ce cas-ci, c'était des gars, là, mais bon, je ne saurais présumer de l'état des choses pour les filles. Mais elle avait des gars dans son cabinet de 19, de 20 ans qui étaient désensibilisés à la sexualité. Que si c'était pas full hardcore, leur libido était pas présent. C'est pourquoi ça, tu penses?
Ben non, c'est sûr, c'est parce qu'ils sont exposés à des affaires ben trop avancées. Ben voilà. T'es supposé découvrir ça à petite bouchée, la sexualité. Mais tu sais, à un moment donné, je me rappelle, il y a une sexologue qui était sortie dans les médias, puis elle racontait qu'il y avait de plus en plus de jeunes filles, des jeunes adolescentes, qui avaient jamais embrassé un garçon avec un French kiss, qui avait jamais embrassé, mais qui avait fait des fellations, là. Ça existe, là.
Puis c'est de plus en plus.
J'aime bien la solution la façon de fonctionner de Lady Marianne. Elle dit ces garçons avaient leur vieux téléphone, ceux des parents, sans ligne téléphonique dessus, pas de LTE, pas de 4G, pas de 5G. C'est-à-dire que Wi-Fi dans la maison. Fait que tu sais, c'est Wi-Fi ailleurs, mais tu sais, t'as pas Internet en tout temps. Puis ça, il y a moyen de vivre comme ça. Moi-même, j'ai longtemps vécu comme ça avec j'avais une ligne maison, puis j'avais un cell qui me servait juste sur le Wi-Fi. Puis je vivais avec ça en tant qu'adulte. Je pense qu'en tant qu'adolescent, ça doit se faire. Mais je trouve que c'est une belle option aussi, tu sais, puis de donner le vieux téléphone, tu sais. Je comprends là que c'est cool dans le cours d'école d'avoir un iPhone récent, mais tu sais, à un moment donné, mettre 1400$ sur un sel pour ton enfant, c'était peut-être un petit peu exagéré.
Donne-nous un téléphone à poche, là, tu sais, dans le fond. Tu sais, le téléphone, là, bon, il y a la notion, OK, bien, décortiquons. Il y a la notion de faut que je sois capable de rejoindre, puis il y a la notion de téléphone intelligent, OK? Fait que moi, là, c'est pas dur. Il me semble que, tu sais, ça ferait plein de sens que ton kid, il s'en va à patinoire, à l'aréna, chez des amis, whatever, qu'il y ait un flip phone ou n'importe quoi, que je peux t'appeler. Quand je t'appelle, tu réponds. Ça, c'est une affaire. Mais si, là, on est arrivé à une ère où est-ce qu'il n'y en a plus quasiment de ça. Fait que là, ben, le dispositif que tu lui donnes pour être capable de le rejoindre, tu sais, d'avoir un proof of life en tout temps, si tu en as besoin, ben, il vient de la porn, puis il vient avec YouTube, puis il vient avec des jeux, puis il vient avec Hampton Analysis, puis il vient avec des vidanges, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu veux faire, là,
Daniel raconte, il dit, il a pogné son fiston sur de la porno à 10 ans. Pauvre petit,
ben ouais,
traumatisé.
Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui.
C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Il fait-tu mal à madame? Tu sais, c'est parce que c'est... Avant, les premières pornes que tu voyais, c'était bleu nuit, là. Tu sais, un sein,
ben ouais,
une cuisse qui passe, un cul de gars, une moustache, du monde qui, tu sais, qui, je ferais pas le geste, là, mais tu sais, qui bouge de façon irréaliste, là, tu sais, des ouais. relations. Tu sais, puis des chapeaux de cowboy, puis des, tu sais, c'était. C'était pas si pire comme initiation, mais à cette heure, c'est ça, ils peuvent tomber sur un gangbang la première journée, puis à 10 sur une fille, puis des affaires épouvantables, puis à un moment donné, il faut garder un certain contrôle. Si tu laisses libre cours à tes enfants, ben, ils vont aller voir ça, je te garantis. Oh non, mes enfants sont pas comme ça, ils sont pas rendus là, ils pensent donc. Même pas aux petites filles. Non, ça, c'est ce que tu penses, là. Ils pensent.
Même moi, des fois, j'écoute Jeffy.
Toi aussi, des fois, tu y penses.
Mais, non, je veux juste conclure sur ça, si tu permets, Frank, parce que l'affaire que je déplore le plus, par exemple, l'affaire que je trouve le plus triste, c'est qu'à toutes les fois qu'on parle de statistiques de jeunes qui vont sur Internet, qui passent beaucoup de temps devant les écrans, tout ça, c'est invariable à ça. On parle de la notion d'intimidation. T'sais, ça, c'est dommage. Je trouve ça plate. Je comprends qu'on le fasse. Je suis pas en train de dire qu'on devrait pas. Mais tu sais, ça, je trouve ça plate. Mais par-dessus ça, parallèlement à tout ça, c'est qu'à toutes les fois qu'on parle de sujets qui traitent d'intimidation, moi pis toi, on jase, Frank, pis moi, je regarde le chat, pis tout le monde en a été victime. Pis c'est sûr qu'il n'y a pas d'allure. Mm. C'est sûr qu'il n'y a pas de bon sens. Tu sais, je regarde dans le chat, tout le monde a un témoignage à l'effet que quand il était plus jeune ou quand il allait au secondaire ou tout ça. Tu sais, je veux pas mettre la tête dans le sable pis dire, ah, ben oui, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est fin. C'est pas vrai. Yeah. Sauf que, tu sais, c'est très déplorable qu'on en arrive à, tu sais, pour beaucoup de gens, pour trop de gens, la société, non. Pour trop de gens, la vie au secondaire se définit par l'intimidation. Puis ça, c'est dommage.
On va faire une petite pause là-dessus.
Ah là, tu m'as pris au dépourvu, par exemple.
Ben là, t'as eu 7 minutes.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Là, il y a quelque chose d'intimidant pour Éric Duhaime. Ça serait un sondage, hein, il paraît.
Ah, écoute. Regarde, je vais ouvrir. C'est hier que je pense. Oui, hier, je pense, j'ai dit ça. Ou peu, non, avant hier, en tout cas, peu importe. Ben, si on pouvait dire qu'Éric Duhaime est un politicien d'un seul sujet, ben, on peut maintenant, d'ores et déjà, on peut, c'est-à-dire, affirmer sans trop se tromper que c'est un politicien d'un seul auditoire. Parce que. Le Devoir, conjointement avec la firme de sondage Léger, a sorti pas plus tard qu'aujourd'hui un sondage dans lequel, ben écoute, c'est pas nous autres qui le dit, c'est pas notre ressenti, ce sont des chiffres. C'est un sondage sérieux fait par une firme sérieuse. Ça c'est entre le 24 et le 26 février, je pense. Ça concerne les intentions de vote au 28 février. C'est un sondage qui a été fait en ligne. Et finalement, ben, on va parler du Parti conservateur à la fin parce qu'ils sont à la fin. Mais s'il y avait des élections maintenant, la CAQ recueillerait 40% des votes. C'est un point de pourcentage de moins que le 3 octobre dernier. Le Parti québécois a 3 points de plus. Le Québec solidaire a 2 points de plus. Le Parti libéral est stable. Les pourcentages, là, je comprends, je suis conscient que j'aurais dû le dire autrement. Donc, Parti québécois, ça serait 18 % 17 pour Québec solidaire, 14 pour le Parti libéral et 9 pour le Parti conservateur du Québec. C'est 4 points de moins. Sauf que, tu sais, quand t'es dans les single digits, 4 points, c'est énorme, là. Tu sais, c'est comme 50 %, là. Fait que, au final, ben, ce que ça dit, en fait, c'est que le résultat de l'élection serait sensiblement le même que le 3 octobre. Par contre, ben, tu vois, si tu regardes dans le cas du Parti conservateur du Québec, en 2018, les intentions de vote, c'était 2 %. C'était inexistant.
Il n'existait pas. Ouais.
Non, c'est ça. Dans le cadre des élections en 2022, c'était 13 %. Et là, ben, c'est 9. Tu sais, il n'y a pas de croissance là.
On est loin de l'opposition officielle.
Non, on est loin. On est loin d'avoir un bureau à l'Assemblée nationale. On ne parle même pas d'opposition ici. Là. Par contre, il y a des stats que je pense qui font encore plus mal. Puis je m'explique, c'est que, évidemment que quand tu votes pour un parti, tu peux voter pour un chef, tu peux voter pour un candidat dans ton comté.
Ou pour un programme.
Ben oui, mais c'est déjà arrivé que dans l'histoire la politique au Québec, tu sais, moi, je me considère comme plus un péquiste, mais que dans mon comté, j'ai pas le choix de voter pour Québec solidaire parce que mon candidat péquiste dans mon comté, c'est un Maillet. Ça peut arriver, là.
Ben oui, ça peut arriver.
Ça peut arriver, c'est ça. Mais écoute bien ça, la perception des chefs des partis politiques québécois le 28 février, OK? Les pourcentages d'opinions positives, Paul Saint-Pierre Plamondon et François Legault score assez haut. Là. Paul Saint-Pierre, c'est 50 %, puis François Legault, c'est 60. Gabriel Nadeau-Dubois aussi est dans les mêmes eaux que Paul Saint-Pierre Plamondon. Marc Tanguay, le monde s'en crisse. Mais Éric Duhaime, c'est 19 %. Mais la stat qui fait encore plus mal, c'est que c'est... Outre Paul Saint-Pierre Plamondon, et Marc Tanguay, que pour des raisons évidentes, il est là par intérim, c'est le politicien que personne ne sait c'est qui. C'est celui qu'il y a le plus de monde qui ne figure pas sur le radar. Puis c'est la défaite d'Éric Duhaime.
En fait, c'est une conséquence de sa défaite. Le fait qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale fait qu'il y a beaucoup moins de couverture médiatique.
C'est clair.
On recherche beaucoup moins ses commentaires. C'est pas un élu. C'est ni un élu, ni... T'sais, le fait qu'il ne soit pas à l'Assemblée nationale physiquement, c'est un affaire, mais c'est parce que c'est pas un élu. Tu t'intéresses surtout aux opinions de ceux qui représentent le peuple. Pas quelqu'un que 22 % sait pas c'est qui, 60 % y a à la face, puis 18 % le trouve pas pire. Là. Puis 18 % ben, ça correspond un petit peu au pourcentage de...
Ben, c'est ça. C'est ce que ça dit, c'est que c'est le politicien d'un seul auditoire.
Conspirationnistes.
C'est aligné sur le pourcentage de gens qui pensent que la COVID est une invention, que le néo-mondialisme, tu sais, puis le pédosatanisme, puis les médias subventionnés. Éric, t'as perdu ton pari. T'as pas pensé que tu prendrais le pouvoir. T'as pas pensé que tu ferais élire un paquet de députés. T'as pensé que t'en ferais élire un avec les complotistes.
Ouais.
T'as pas réussi.
Je pense que c'est assez clair que sa stratégie, c'était ça. Séduire le vote complotiste en pensant que ça allait suffire à lui offrir un siège à lui.
Ouais.
Puis, écoute, il n'y en a même pas eu un siège. Là. Il y a eu un siège parce qu'il a maraudé, puis c'est une transfuge qu'il a donnée.
Puis, quel siège!
Puis, ouais, puis on, tu sais, siège. Ouais, c'est une chaise de parterre en plastique là, qui se casse d'un coup de pied là, tu sais, dans les autres motels cheap. Là.
L'accouchement a été un siège. Fait que, regarde, c'est...
Un code-siège.
Ouais, c'est ça. Là. Où on est allé puis où on s'en va avec le Parti conservateur du Québec, je l'ai dit, je le répète, puis là, avec des sondages comme ça, vous allez dire, « Ouais, mais là, c'est rien qu'au mois d'octobre. » Pensez-vous que ça s'enligne pour ça, pour aller mieux, là? Eh non, la wave est passée, puis ils n'ont pas scoré avec. Éric Duhaime voulait mettre un député à l'Assemblée nationale. Je suis pas mal certain, de toute façon, qu'il aurait demandé de se tasser pour que lui puisse y aller. Je pense que c'était ça son objectif depuis le début. C'est ça que moi, je dis depuis le début. Il voulait aller faire un shit show à l'Assemblée nationale, aller faire peut-être faire passer à l'Ouest certains députés d'autres partis, se faire voir, avoir des cotes à TV, avoir du airtime. Là, il y a fuck all. Puis là, ben, les résultats de ce sondage-là tendent à prouver que ça va rester fuck all. Puis moi, je vais te dire, pire que ça, s'il y en a un vote de confiance au prochain congrès national du Parti conservateur, je ne suis pas certain qu'il va le remporter.
Oui, puis s'il perd, ce sera la fin du parti, mais s'il gagne, le parti n'est pas grand-chose de toute façon. Tu sais, je pense que ouais, la manne conspire est passée, puis il n'a pas su en profiter. Il va probablement retourner à ses vieilles amours, c'est-à-dire aller faire de la radio à Québec.
Là, je
d'ailleurs, c'est pas ça qu'il fait. Là, il commente l'actualité, il parle jamais de solutions, de qu'est-ce que son parti ferait, ou de qu'est-ce que lui ferait s'il était en poste à l'Assemblée nationale. Il fait juste commenter l'actualité, il essaye d'exister, il essaye de puncher, il essaye de provoquer, de donner un coup de pied dans son nid de guêpe conspi pour essayer de raviver la flamme, mais tu regardes là, c'est mort, Éric.
Ça va être difficile, Frank, parce qu'il va falloir que je me mute à chaque fois que je parle pas, parce que nos professionnels de la rénovation ont décidé de s'activer à 12h46 aujourd'hui avec le drill puis les affaires. Fait que désolé d'avance. Mais en tout cas, pour conclure sur l'affaire d'Éric Duhaime, homme d'un seul sujet, homme d'un seul auditoire et homme seul bientôt.
Ben, il va se ramasser avec l'auditoire de la radio qu'il avait. Ça, je pense qu'il va continuer à poigner s'il se relance là-dedans.
Il est parfait là-dedans.
Oui, écoute, chialer, pas avoir de solution. Je sais, il est fait ce job-là. Retourne-le, mon Eric. Je pense que c'est plus ta place, puis tu vas être plus heureux, puis tu vas être plus à même de payer tes taxes. Il reste pas grand temps, Colin. On a jasé beaucoup. Regarde, je vais juste te parler. Il y a toutes sortes de... En rafale, mettons. Tiens, je vais le faire rapidement. Là. Les élèves québécois sont les champions canadiens du redoublage. On double plus au Québec que n'importe où ailleurs au Canada. Écoute, ça fait vraiment dur. En fait, on est le double de la moyenne canadienne, c'est assez catastrophique.
On double dans le doublage.
Oui, c'est ça. On est on double du double. Regarde, c'est pas récent, là. C'est pas une affaire de pandémie, là. C'est une tendance là qui est installée. Là. D'ailleurs, les chiffres que j'ai sous les yeux. S'arrête à 2020, mais regarde, déjà en 2003, à Québec, c'était 21% des élèves qui doublaient, comparé à 10% au Canada. En 2009, il y a juste 7% des élèves canadiens qui doublaient, mais au Québec, c'est 14%, le double. En 2012, 15% au Québec pour 6% au Canada. En 2015, 11% au Québec pour 5% au Canada. En 2018, 11% de doublage d'élèves qui doublaient au Québec pour 5% au Canada. C'est pas mal une constante. On le double. Et puis, en 2020, au primaire, on parle de 10 000 élèves qui ont doublé. Et puis, 31 000 au secondaire. Et apparemment, le ministère compile pas ces données-là. Du doublage, en tout cas, c'est pas fait très, très assidûment. Fait que le portrait qu'on aurait est pas très, très précis. Là, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mon feeling, là, c'est que on va encore niveler par le bas, puis on va juste les laisser passer pour que les chiffres de doublage soient moins gênants. C'est comme ça qu'on agit dans le milieu de l'éducation. Quand trop de gens, et rappelez-vous, là, quand on s'est rendu compte que la moitié des élèves échouaient l'épreuve de français, bon, on la rend plus facile. L'examen de mathématiques, quand on s'est rendu compte que plus de la moitié des élèves l'échouaient, on a majoré les notes pour que tout le monde passe. Puis en plus, cet examen-là avait été rendu plus facile à cause de la pandémie. Puis c'est ça que ça avait donné. Fait que, tout le monde est poche. Bon, tout le monde va passer pareil. On va niveler par le bas encore. Puis, OK, il reste pas grand temps, puis je veux quand même vous. C'est rare que j'ai des nouvelles insolites, là, mais celle-là, je l'ai trouvée cool. C'est une insolite biblical. Quand je dis biblical, c'est parce que ça rappelle certains passages de la Bible. Notamment une des plaies d'Israël qui a été infligée par Dieu à la demande de Moïse pour que le pharaon laisse partir son peuple. Ça, évidemment, c'est dans la Bible, là, parce que dans les faits, les Hébreux ont jamais été un peuple réduit à l'esclavage en Égypte. Toute l'histoire n'est jamais arrivée. Il n'y a aucune trace de milliers de personnes, de milliers d'Hébreux qui ont été tenus en esclavage sous Ramsès. Là. C'est juste jamais arrivé. Mais dans cette histoire-là, à un moment donné, Moïse se fâche et puis il fait venir des plaies. Il change l'eau de la rivière du fleuve en sang. Puis il fait tuer les premiers-nés de chaque famille égyptienne, parce que Dieu est juste et bon. Même en année, fait d'une pluie de grenouilles et des nuages de sauterelles, des apocalypses animalières qui viennent détruire les récoltes, tout ça. Ben, il y a une ville en Australie qui a eu un aperçu de ça. Il y a eu une pluie de poissons, imagine-toi donc. Il s'est mis à pleuvoir des poissons qui descendaient du ciel, pareil comme dans la Bible. C'est vraiment arrivé, là. C'est pas une joke, c'est pas un hoax. Il y a vraiment des poissons.
Ouais, mais là, tu vas nous expliquer comment c'est arrivé, là, quand même. Pour mouiller des poissons.
Ben, c'est le Seigneur qui. Non. Évidemment, il y a une explication pas mal plus intelligente que le Seigneur s'est fâché ou le Seigneur envoie un message, là. Quoique, tu sais, y en a que c'est ça qu'ils ont vu là-dedans, là. Évidemment, là, c'est le représentant de Japanangta, en tout cas, je ne saurais pas le prononcer, là, c'est impossible à dire, a qualifié ce phénomène d'étrange bénédiction du Seigneur. Mais bon, il y a des scientifiques qui comprennent ce qui s'est passé, c'est que ça. Des fois, il y a des tornades qui vont survoler des plans d'eau et ils deviennent à ce moment-là des trombes d'eau. Ça arrive, c'est arrivé notamment ici, si vous tapez sur YouTube ou je sais pas où, vous allez trouver des images qui avaient fait le tour, qui avaient passé à Météo Média dans le temps, d'une trombe d'eau spectaculaire qui avait été vue à Montréal sur le fleuve. C'est une tornade qui se ramasse au-dessus d'un courant d'eau et qui aspire l'eau, fait que ça fait un gros cône de vent tourbillonnant, mais rempli d'eau. Et puis, si ça se ramasse dans un endroit qui est très concentré en poissons, comme celui-là, d'ailleurs, le poisson qui est tombé, c'est des perches pailletées. C'est les poissons d'eau douce les plus courants d'Australie. Il y en a une pléthore, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, quand la trombe d'eau se trouve à passer au-dessus d'un banc de ces poissons-là, elle peut en aspirer des centaines, voire des milliers. Et une fois que la trombe d'eau redevient une tornade, c'est-à-dire en touchant terre, elle transporte la vie marine avec elle. Et quand les vents s'estompent et qu'elle perd en force, ben tout ça retombe. Écoute, ça tombe de haut. Fait que les poissons qui tombent, ça donne une impression qu'il pleut des poissons.
C'est pétrie, ça. J'ai jamais entendu parler d'une affaire de même de toute ma vie.
Ah, c'est complètement fou. On a entendu plein d'histoires de pluies, de grenouilles, d'affaires de même, mais moi, je me dis tout le temps, ça, c'est du monde qui ont halluciné ça, puis, tu sais, ils font des délires bibliques, là. Mais non, ça a l'air que ça arrive. Ça arrive assez souvent, puis ça peut être des oiseaux, des grenouilles, mais souvent, ce sont des poissons. Évidemment, ça arrive pas souvent à cet endroit-là, du fait qu'on en fait une nouvelle, mais à Yoro, au Honduras, il pleut du poisson à chaque année, à la fin du printemps, au début de l'été. Il y a des averses de poissons.
Mais comment ça que nos amis conspirent nous ont pas parlé de ça, nous ont pas expliqué ce phénomène-là, je t'assomme.
Ils l'ont pas vu encore, mais pour eux autres, ça va être un signe de la fin des temps du Seigneur, tu sais bien. Les conspirituels, en tout cas, vont voir des... Ou une bénédiction du Seigneur qui nourrit ses enfants. Mais ça, au Honduras, à Yoro, ça arrive à chaque année. Puis... personne n'ose sortir parce que, tu sais, un poisson, ça aïeule, fait pas du bien. Mais plusieurs animaux peuvent être attrapés comme ça. Ça peut être des grenouilles, des oiseaux, tout ça. Mais aussi, en 2015, c'est des araignées dans la région de Southern Tablelands en Australie qui se sont ramassées comme ça dans une tornade. Mais tu sais, des araignées, là. Des millions et des millions d'araignées. C'était la période de reproduction d'une espèce d'araignée. Et la tornade est passée probablement dans un champ qui en était infesté. Puis il est tombé des millions de bébés araignées du ciel. Tu sais, ceux qui aiment pas les araignées, je pense à ma blonde, là, qui voit une araignée de 3 mm sur un mur, puis elle réagit comme si il fallait que j'aille exterminer une bête sauvage qui en veut à sa vie, là. T'sais, c'est une tarentule! T'sais, pis c'est gros comme ça, là. Imagine des milliers de ces araignées-là, des millions de ces araignées-là qui se mettent à tomber du ciel. Puis après ça, le spectacle est encore plus étonnant parce que ces araignées-là se sont mis à faire des toiles partout en ville. Fait que le sol était recouvert de toiles partout, mais... Sachez que des puits animalières, ça arrive. Et non, c'est pas divin. C'est pas non plus un phénomène météo. Il n'y a pas de condensation d'œufs de poissons qui vont éclore dans les nuages. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de condensation de poissons. des phénomènes de tornades qui se transforment en trombes peuvent aspirer la vie marine pour après ça la distribuer un petit peu partout. Et ça donne ce phénomène-là qui, franchement, est spécial. Pour que je vous parle... Pour que je décide d'en parler au micro, ça prend des bonnes insolites. Celle-là, je trouve qu'elle est pas pire. Elle se classe.
J'aime beaucoup ce genre de nouvelles-là. Moi, on va aller vers la bonne nouvelle. Par contre, ben, je sais pas. Tu me diras que tu en penses. Fait que, il y a un monsieur, Mr. James, qui s'appelle, qui a passé plusieurs années comme concierge d'une école secondaire au Texas. Je ne saurais dire le nom de l'école. De toute façon, c'est pas important. C'est dans un high school au Texas. Et il y a des photos et tout ça. Là, inquiétez-vous pas, j'ai pas pris ça sur jesusauve.org.angelfire. Mais non, c'est ça. Puis écoute, tu sais, on en a parlé souvent des hausses de coûts de loyer ridicules puis toute la kit. Ben, ça y est arrivé à M. James. M. James vivait dans le même immeuble depuis longtemps. Et il y a eu une augmentation de loyer complètement ridicule de 400$. Par mois. Fait que ce qu'il a fallu qu'il fasse, c'est qu'il a fallu qu'il appelle le doyen de l'école secondaire ou le directeur, puis qu'il demande s'il pouvait avoir sa job. Mais M. James a 80 ans. Fait que, il n'y a pas de problème. Êtes-vous en état, passer un médical, tout le kit. Oui, parfait. Fait que M. James, il revient à l'école, il recommence à travailler, tout ça. Ben là, il y a des kids, eux autres, qui ont dit non. Un monsieur de 80 ans, ça devrait faire des affaires de monsieur de 80 ans, pas ramasser nos cassins. Fait qu'ils ont décidé de partir un GoFundMe. Là, ils ont dit, regarde, on changera pas sa vie, là, mais tu sais, si on peut ramasser 10 000$, ben regarde, au moins, ça fera ça, puis on en refera un autre, ou tu sais, whatever. Mm-hmm. Ils ont ramassé 270 000$.
Wow!
Pour M. James, qui était hyper apprécié dans la communauté de cette école-là. Il a travaillé là des années. Tu sais, le genre de concierge que, tu sais, ton père, puis toi, c'était lui quand t'allais à l'école, là, ce genre-là. Fait que ils sont venus à bout d'aller chercher... En dedans de 12 heures, ils avaient ramassé 10 000. Puis, tu sais, juste dans leur communauté, là, c'est pas des...
C'est
ils ont pas demandé l'aide des truckers, là. Tu sais, ils ont fait ça dans la communauté de M. James. Et là, ben écoute, ça permet à M. James de retourner chez eux, puis de faire ses petites affaires, puis de vivre une vie, de terminer une vie paisible, là, après un dur labeur et une retraite bien méritée. Puis tu vois, ça fait 3-4 histoires comme ça que je raconte, mm-hmm. Puis que je trouve sympathique, puis tout. Mais tu sais,
ça parce donne foi à l'humanité un peu, hein?
Oui, ça donne foi à l'humanité, sauf qu'en même temps, moi, je suis le gars qui aime ça, dire « ouais, mais... » Tu sais, OK. Fait que là, mettons là, qu'à un moment donné, il y a quelque chose de sympathique, là, le même genre d'histoire qui arrive au Québec, n'importe où, au Canada, un concierge ou une personne de 65 ans qui est pognée pour retourner travailler chez Chuck E. Cheese, parce que là, il y a... Ben ouais. Mais là, c'est quoi? À un moment donné, tu veux assurer les vieux jours de quelqu'un, mais tu sais, à un moment donné, là, je veux dire... Tu vas ramasser 1,2 million, là?
Tant qu'à ça, mais tu peux en faire... rendu à 1,2 million, tu peux dire... écoute, je paye des grosses TV à un centre de personnes âgées, là.
Ben non, c'est ça. Tu sais, fait qu'après ça, là, tu sais, je veux dire, je trouve ça hyper cool. Tu sais, comme la madame qui a redonné le 15 000$ de cadeau de noces à la police, mm-hmm. Tu sais, puis ils ont donné un char, puis 80... Tu sais, ça... Elle a eu un bon montant d'argent qui va lui aider à avoir couler des jours heureux. Mais tu sais, parce qu'à un moment donné, est-ce que je vais raconter une histoire, genre, ouais, ben là, écoute, il y a un monsieur qui était à la retraite, qui était obligé de revenir au travail parce que sa femme, elle n'avait pas d'assurance. Puis là, ben, ils ont ramassé 9,8 millions. Ils ont donné ça. Puis là, la madame, elle a ses médicaments. Puis, tu sais,
c'est-tu ce que ça révèle sur la société?
Est-ce qu'à un moment donné, il va avoir des... Ouais.
Ce que ça révèle sur la société, c'est que la richesse, elle est disponible. Elle est juste mal distribuée.
Ben, peut-être, oui, c'est sûr.
L'argent, il est là, là. Il y en a assez pour tout le monde.
Ah non, c'est clair. Quand tu veux redistribuer, c'est possible que tout le monde ait un... que c'est faisable que tout le monde soit un petit peu plus... que ce soit distribué plus équitablement, ça c'est sûr. Sauf qu'en même temps, Frank, tu sais, je comprends ton point. Sauf que d'un autre côté, ben, tu sais, le gars qui travaille 15 heures semaine, puis l'autre qui en fait 110, tu sais, m'amener, là.
Je pense que tout le monde devrait être riche, là, Martin, mais
j'ai pas dit que t'avais dit ça non plus.
Mais je veux dire, une société, tu sais, qui a les moyens qu'on a, par exemple, une société riche comme la nôtre, devrait être capable d'assurer les besoins puis une retraite heureuse à tous ceux qui en ont l'âge là.
Je veux rien éviter, je fais juste poser la question, tu sais, à un moment donné partir des GoFundMe pour aider du monde, c'est super sympathique, c'est merveilleux, tu sais, ça a changé la vie de beaucoup de gens, GoFundMe, sauf que tu sais, à un moment donné je comprends que ça peut devenir démesuré. T'sais. Pierrot aimerait ça s'acheter un vélo, maman est monoparentale. On a ramassé 298 000 $ pour le vélo à Pierrot. T'sais,
le monde se font plus entraîner dans des mouvements de t'sais, ils sont plus généreux dans des affaires populaires qui sont le buzz du moment que de la générosité normale. C'est plus le buzz, on dirait, que le fait d'avoir pensé à aider une personne aînée.
Oui, tu vois Pierrot avec son vélo de baller en or massif, puis il s'est fait faire une grille en même temps, puis tu sais, il y a des Joel, puis il y a une grille en diamant. Des... Ben oui, ça n'a pas d'allure, là, ta boire.
Voilà, c'est disproportionné. C'est une drôle de société. On vit vraiment une drôle d'époque. Oui. Et cette phrase-là marche à toutes les époques, là, mais là, c'est à notre tour de le dire, on va le dire. Répondre, je pense que c'est Boss, c'est Pat qui disait, pour les araignées, tu sais, tu passes pour un... Oui, c'est ça, il dit, Frank, quand tu tues l'araignée, tu passes pour un héros. C'est même pas ça que je fais. Moi, je l'attrape, puis je vais la porter dehors. Vive et laissez vivre. Fait que je réussis même pas à avoir une légende de guerrier qui tue des araignées. Je m'en vais les reporter.
Puis, juste pour la postérité, c'est pas GoFundMe. C'est GoFundMe.
Tu vas dire à chaque fois. Ben, à un moment donné, ça va rentrer, puis ils vont arrêter de dire GoFundMe.
GoFund, pas found.
Oui,
fund.
C'est ça. Ils vont arrêter de dire GoFundMe, puis ils vont peut-être aussi arrêter de dire un teaser à la place d'un taser pour la police. Oui,
il y a ça. Ou un épisode.
Un épisode, un autobus. Puis en tout cas, ben, on vous souhaite une bonne. Un bon après-midi. Salut tout le monde, à demain midi.
Membre de la famille H2O Media.